Bonjour, bienvenue dans notre émission. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de parler de la génération Y. Et quand on dit génération Y, de qui parle-t-on ? Quel est leur quotidien, leur rapport aux autres, leur façon de voir le monde, leur conception de la vie professionnelle ou de la vie en général ? Donc j'ai, comme on l'a annoncé, invité Valérie Poubelle. Bonjour Valérie Poubelle.
Bonjour.
Donc vous êtes psychologue du travail et formatrice.
Oui.
Et vous vous êtes penchée avec beaucoup d'intérêt sur cette génération Y, et vous pouvez nous dire qui sont-ils ?
Alors ces générations Y sont les générations qui sont les enfants des générations X, alors peut-être que jusque-là ça ne nous dit pas grand-chose.
Non, en effet, si vous pouvez préciser.
Donc les générations X sont les générations, donc les enfants des baby-boomers. Donc les X ont engendré les Y, ça c'est une première caractéristique donnée par les sociologues, puis d'autres sociologues diront que les Y, plutôt les anglo-saxons d'ailleurs, parlent de la génération Y, qui est une génération du pourquoi, une génération qui pose beaucoup de questions.
Alors pour ceux que ça intéresse, le Y en anglais se dit Y.
Merci.
C'est ça.
C'est ça. Donc les générations Y sont les générations issues justement de l'environnement. Hein. Quand on parle de génération, on parle d'environnement qui a généré quelque chose. Ces générations Y sont le produit de l'environnement dans lequel elles sont nées.
Donc ne jetons pas haro sur le baudet.
Tout à fait.
S'ils ont un mode de fonctionnement qui leur est bien, particulier, et nous allons le décliner là maintenant, et qu'il y a des choses qui nous heurtent ou nous dérangent, eh bien, ça n'est pas leur faute. Mais on peut éventuellement chercher à comprendre et puis fonctionner ensemble.
Oui, en effet. Donc, ces générations Y sont nées dans un environnement qui a énormément changé. Hein, donc, ces générations, eh bien, ont connu une accélération des changements. Aujourd'hui, sur l'environnement, on s'aperçoit qu'une génération doit absorber le changement de 4 générations du point de vue des progrès technologiques.
Oui, et ça, c'est très déstabilisant, particulièrement pour les plus âgés d'entre nous. Parce que pour ceux qui sont nés avec juste le téléphone fixe et qu'aujourd'hui on peut communiquer par des tas de moyens, c'est un peu déroutant, mais eux sont nés là-dedans et donc on peut dire qu'ils sont ultra connectés.
Oui, on parle même d'hyperconnexion, hein, là où les générations X, donc les parents des Y avaient 10 copains, maintenant on parle de 5000 amis sur Internet.
Alors quelle réalité ça recouvre ça ?
Alors en fait, on s'aperçoit que ces jeunes ont repoussé toutes les limites. On a 10 copains, maintenant on a 5000 amis, mais les limites sont importantes dans l'environnement puisqu'on va avoir la possibilité d'aller toujours plus loin, de se connecter avec un Australien, de se connecter avec toute la planète si l'on veut, et on va avoir un recul des frontières. Donc ces jeunes-là ont probablement des problèmes avec ces limites parce qu'on peut penser qu'elles sont à l'infini, que le possible c'est quelque chose de très très important et que grâce à ces connexions on peut tout faire. Hein, donc ça modifie énormément de choses.
Oui, ne serait-ce que le champ de conscience déjà, on a l'impression de naviguer dans l'infini en définitive.
Oui, tout à fait. Et puis, ces jeunes, comme tout être humain, ont besoin de limites pour pouvoir se structurer. Et ils sont dans un environnement où, finalement, il n'y a plus de repères. Hein, les repères
C'est ce que j'allais vous dire, limites et repères, parce que quand le champ est très vaste, eh bien, comment je me repère ? Comment je fais ma route ?
Justement, ce qui va être difficile avec les jeunes, que ce soit pour les parents, les éducateurs ou les managers, ou même des jeunes avec d'autres jeunes quand il y a à peine 10 ans de différence, hein, on voit ça aussi, c'est de comprendre un peu ces modifications des comportements. Et je pense que le conflit intergénérationnel a toujours existé.
Oui.
Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'environnement s'est complexifié, hein, eu égard au progrès technologique, aux nouvelles technologies, à la possibilité d'avoir tout de suite, hein, le rapport au temps a changé. On peut immédiatement, d'un clic de souris, commander tout ce qu'on veut ou passer un coup de fil et on aura ce qu'on veut dans cette société où on est tout le temps sollicité sur la consommation.
Alors, eux, c'est là-dedans qu'ils sont nés. Qu'est-ce que ça induit dans leur mode de fonctionnement ? Donc, vous venez de l'évoquer, leur rapport au temps est complètement différent de celui de leurs parents, forcément. Même si leurs parents, déjà, ils ont l'habitude de commander d'un clic, etc.
Oui, ça dépend de l'âge des parents, en effet. Alors, le rapport au temps, oui, chez les générations précédentes, le temps pouvait être économisé, dépensé, structuré. Les tâches sont un petit peu organisées autour d'un agenda. Avec les générations Y, on peut tout faire en même temps tout de suite. On surfe aussi sur le temps. Le temps est une espèce de continuum. Il n'y a pas forcément de structuration. Et on va pouvoir à tout moment remettre un rendez-vous parce qu'il y a une rencontre avec un ami qui est plus important que le rendez-vous avec le médecin, la psychologue.
Alors, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui ont un petit chéri ou une petite chérie de cette génération-là, c'est très, très déconcertant, ça, de les voir effectivement faire plusieurs choses en même temps, en étant, je le trouve, très performant, et en même temps, s'étant engagé à une chose, et puis de dire, je la remets parce que ceci est plus important.
Oui, tout peut être remis en question à tout moment. Les priorités sont probablement pas les mêmes que pour les générations précédentes. Ils ont un rapport autant à l'autorité, au travail et au changement qui a vraiment énormément changé.
Oui, mais alors ce que j'entends là, c'est que en définitive, pour eux, c'est la dictature de l'instant.
Oui, ils sont un petit peu dans cette dictature-là. Bon, en Occident, on peut dire qu'en effet, le rapport au temps est extrêmement difficile et qu'on a énormément de temps, de difficultés, pardon, à se connecter au présent. Hein, et que on est toujours en train de courir après ou le futur et à vouloir toujours tout faire vite. Et c'est vrai que c'est sans doute une caractéristique, alors que certaines pensées, la pensée profonde, hein, la pensée sur des sujets importants, demande justement de prendre le temps.
Oui, alors là vous levez un autre lièvre, si j'ose ainsi m'exprimer, c'est cette information permanente et totale, entre guillemets, qu'on semble avoir, et justement quand on veut creuser un sujet, c'est un peu compliqué là.
Oui, le rapport à l'information a changé parce que on est sur une information qui est gratuite, qui est accessible tout le temps, et qui n'a pas de valeur, hein, puisque... Tout se vaut, puisque tout est disponible, et qu'on n'a pas besoin de faire effort, ni de payer pour avoir l'information. Donc on a une information qui n'a pas de valeur, avec des informations qui vont dire tout et son contraire. Et donc là aussi, c'est compliqué pour ces jeunes-là de pouvoir se repérer dans cette masse d'informations à laquelle ils ont accès. Et je pense qu'on peut les aider aussi à discerner l'information fiable, utile, valide, ouais, des autres informations.
Ça veut dire que déjà, il faut en discuter avec eux. Première chose. Et puis peut-être bien sortir d'une certaine relativisation qui est ambiante et qui ne va pas aider ces jeunes-là à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas.
Oui, tout à fait, parce que du coup, l'information va modifier le rapport au savoir. Hein, les jeunes vont considérer qu'ils peuvent tout savoir en allant sur Internet. Et du coup, ce rapport au savoir va modifier aussi le rapport à l'autorité. Ah. L'autorité qui, par le passé, était détenue par l'ancien parce que l'ancien avait le savoir, est remise en question puisque, à tort ou à raison, les jeunes vont considérer que l'information, donc le savoir, ils peuvent l'avoir quand ils veulent, à tout moment.
Vous diriez qu'ils ont une présomption de leurs propres compétences ?
Alors, je dirais plutôt que si par le passé, on avait une présomption d'incompétence où on disait « tu ne sais rien, apprends, fais effort et l'expérience te donnera l'autorité et tu commenceras à développer professionnalisme », aujourd'hui, on peut croire à tort que les jeunes peuvent être compétents tout de suite.
Enfin, eux croient à tort.
Et eux peuvent croire aussi à tort qu'on peut être compétent tout de suite parce que, puisque l'information est là, on doit tout savoir tout de suite.
Oui, je le lis donc je le sais, sauf qu'ils oublient peut-être un petit détail, que parfois l'information peut demander vérification.
Oui.
Parce qu'on en lit des sottises sur Internet quand même.
C'est vraiment ça, un vrai travail, je pense, des éducateurs et des parents pour pouvoir travailler là-dessus, c'est discerner l'information utile de l'information qui est accessoire et qui n'est qu'un commentaire.
De l'information utile, de l'information vraie.
Oui.
Ça demande un...
Fiable et valide.
Oui, comme vous dites. Bon, alors ça change quand même. Donc, vous disiez le rapport au temps, le rapport à l'autorité, le rapport à l'information. Et puis, vous parliez de 5000 copains. Quel est leur rapport à l'intimité ?
Alors, le rapport à l'intimité, je pense qu'ils l'ont, mais qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience, en s'exposant sur Internet, de ce que ça peut avoir comme conséquence. Et là aussi, il y a toute une éducation à faire sur l'information qu'on transmet sur Internet, sur Facebook, sur d'autres sites.
Oui, tous les réseaux sociaux.
Voilà, tous les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas sans effet et qui va être important de mesurer cet effet. Justement.
Ouais, alors ça demande à être fait avec intelligence, parce que si on fait ça sur le ton moralisateur, ça va rater son but à tous les coups. Comment leur faire, les faire rentrer dans cette dimension-là, que ce qui va sur Internet y reste et est visible par tout le monde ou peu s'en faut.
Je pense que déjà utiliser malheureusement les événements qui existent pour les éduquer à ça, et puis leur proposer des façons de sécuriser l'information, travailler avec eux. D'ailleurs, ça peut être un moyen d'être en lien et de soi-même en tant que parent se former à cette nouvelle technologie et à ce qui existe.
Ah, ça veut dire que les parents doivent travailler à la question aussi.
Oui, pourquoi pas.
Bon, et alors, donc, vous disiez tout à l'heure, en fonction de la priorité du moment, ils peuvent remettre des choses qui nous avaient paru importantes, et même à eux d'ailleurs, et qui, voilà. Et vous parliez aussi de consommation. En quoi cette société consumériste les a formatés d'une certaine façon?
La société consumériste les sollicite en permanence pour qu'ils demandent des biens et qu'ils consomment.
Donc, c'est certain que derrière iPhone, iPad, j'en passe des meilleurs. Je ne suis pas au fait de tout, mais enfin, bon.
Et du coup, on va relier la notion de plaisir à la notion de consommation. Et donc, on va être sur une sollicitation en permanence sur le plaisir que l'on se fait à soi-même par la consommation. On pourrait parler d'hédonisme. Et on va se retrouver sur un seul axe possible du plaisir qui est l'hédonisme. Et finalement, on va se retrouver avec des comportements qui peuvent devenir à la longue individualistes. Hein. C'est se faire plaisir avant tout. Mmh. Alors même si se faire plaisir, c'est important pour pouvoir garder un bon équilibre psychique et physique, ça ne suffit pas. Hein. L'être humain a aussi besoin d'être en relation. Il se construit aussi par des vraies relations qui demandent du temps, qui demandent de la rencontre, qui demandent du partage. Et je pense que ça, c'est important aussi de pouvoir travailler cela, et puis aussi de se dire que le plaisir, on peut aussi avoir plaisir à travailler.
Ah, alors ça, vous mettez la barre très haut, parce que, et puis je pense qu'il faut un certain âge pour entendre ce type de choses. Et puis, il faut que le jeune puisse l'expérimenter, non?
Alors, je pense que si on veut aider les jeunes dans leur rapport au travail et leur montrer que travailler, ça peut être aussi source d'épanouissement, c'est important de pouvoir travailler avec eux leur projet professionnel.
Voilà. Alors, justement, on a beaucoup, beaucoup parlé de la génération Y, et peut-être que dans un deuxième temps, on va pouvoir parler de leurs chers parents.
RCF Radio Théo, votre radio locale. RCF Radio Théo, Vie de famille, Lorraine Lapara.
Et mon invitée Valérie Poubelle, psychologue du travail, qui nous a donc décrit assez précisément comment fonctionnent, qui sont les membres de la génération Y. Et évidemment, en tant que parent, on aimerait bien savoir comment on va faire avec ces petites bêtes-là. Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents, puisque vous disiez en première partie, ces jeunes-là ont vraiment une quête permanente de sens?
Oui, en effet, ces jeunes qui posent la question du pourquoi, c'est bien pour ça qu'on les appelle les générations Y, donc Y en anglais, sont des générations qui vont avoir besoin de sens, qu'on leur explique les choses, qu'on leur dise pourquoi on fait les choses, notamment dans le champ du travail, par exemple dans leur rapport à l'autorité, j'en ai parlé. Ils vont avoir besoin que le manager, leur chef, explique pourquoi on fait les choses et quel est le sens de ce qu'on fait. Ce sont des jeunes qui ont besoin de sens et qui souhaitent contribuer à quelque chose.
Très bien. Sur le plan domestique, si j'ose ainsi m'exprimer, ça parfois un petit peu plus compliqué d'expliquer au petit chéri qu'il pourrait vider le lave-vaisselle pour que maman ne se tape pas tout. Argument auquel ils sont assez peu sensibles.
C'est vrai qu'ils sont dans une logique de négociation, donc ils seront sans doute à demander ce qu'ils vont gagner à faire cela.
Voilà. Alors, quand vous dites qu'ils demandent pourquoi et que donc les parents sont appelés à donner du sens, peut-être que les parents ont à rechercher quel est le sens pour eux des choses aussi. Parce que s'ils ne savent pas vraiment ce qui est important pour eux, comment ils peuvent le transmettre aux enfants ?
Je pense que ces jeunes qui nous posent sans arrêt des questions sur le pourquoi nous convoquent en tant que parents sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils vont sans cesse nous interroger sur nos valeurs. Et donc, c'est important quand on est éducateur et donc parent de pouvoir être au clair avec ces valeurs-là pour pouvoir justement les défendre et les transmettre.
Bien. Alors, on fait comment pour se mettre au clair ? On y réfléchit ?
Alors, c'est important, en effet, d'être au clair avec son projet de vie pour pouvoir aider un jeune, un enfant, à travailler lui-même son projet de vie, qui sera justement bien accueilli, puisqu'on a remarqué dans les études sociologiques que ces jeunes sont très intéressés au développement personnel et au développement d'un projet de vie épanouissant, où justement le travail, s'il n'a pas toute la place comme par le passé, il a une place et où la famille reviendrait d'après les sociologues en force.
Oui, c'est-à-dire que si le travail peut être un facteur d'épanouissement, ils sont tout à fait pour.
Voilà, tout à fait.
Ouais, mais il faut vraiment que ce soit un facteur d'épanouissement, c'est pas le travail en lui-même.
Oui, je pense que le travail, de toute façon, pour qu'il soit épanouissant, dans le travail, il y a toujours une négociation entre le plaisir et les contraintes. Ce qui est important, c'est que le plaisir soit plus important que les contraintes, même s'il y a tout un travail à faire sur l'acceptation de la contrainte pour pouvoir justement travailler dans de bonnes conditions.
Alors ça aussi, c'est un travail éducatif, parce que vous parlez de contraintes, on peut entendre par derrière frustration. Parce que qui dit contrainte dit souvent frustration, et donc vous soulignez là l'importance d'éduquer nos enfants, particulièrement cette génération-là, à la frustration.
Gérer ces frustrations et savoir les gérer, c'est-à-dire savoir les dépasser, c'est une grande force puisque ça permet de toute façon d'être libre, puisque les contraintes, on en a tout le temps dans la vie de tous les jours.
Oui, alors ça c'est un message qu'il est un peu difficile de faire passer à un certain âge, on va dire. Il faut, quand les enfants sont de jeunes adolescents, bon, ils sont peut-être plus encore dans cette... Si, ils sont encore dans cette génération-là, c'est jusqu'à 95, c'est ça ?
C'est ça, oui, 95, 2000 même.
Ouais, même 2000, oui, eh bien c'est un peu difficile de leur faire entendre que savoir vaincre ses frustrations, c'est une victoire.
Ah mais c'est sûr qu'éduquer, ça demande des efforts et de la ténacité.
Avis aux parents, pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte. Donc vous, le premier conseil que vous donnez, c'est de revoir les priorités, de revoir le sens qu'on veut donner.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Donner du sens, de l'espoir, du rêve aussi, hein, puisque dans notre monde où tout est un petit peu difficile, c'est important de pouvoir permettre aussi de dire qu'il est possible de réaliser ses rêves, mais en faisant aussi effort et en travaillant son talent.
Donc l'idéal n'est pas banni.
Non, tout à fait. Je pense que l'idéal, c'est vraiment très important de le garder et d'apprendre, on fait ça toute sa vie, à reformater son idéal en fonction de l'environnement dans lequel on est, des opportunités, des contraintes.
De la réalité.
Hein. De la réalité de la vie.
Ouais.
Et aussi de développer, je pense, c'est un atout important, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence que l'on a tous en soi, qui peut permettre de comprendre à la fois ses propres émotions, mais aussi les émotions des autres pour être dans des relations de qualité. C'est Goleman qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui me semble être un axe important de réflexion pour les parents. Comment développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle des jeunes pour qu'ils puissent développer des qualités relationnelles, de la qualité relationnelle, pardon, une qualité de relation importante et sortir de ces relations purement virtuelles qu'on trouve sur les réseaux sociaux.
Oui, alors une fois de plus, quand vous dites développer leur intelligence émotionnelle, ça suppose de la part des parents un petit travail préalable et même un travail qu'on fait toute sa vie, si on est un peu réaliste.
Oui, tout à fait. Je pense que dans un accompagnement d'un jeune dans son développement, on ne peut pas aller plus loin que là où on a été soi-même et qu'il est important soi-même d'avoir travaillé à son propre développement pour pouvoir permettre à ces jeunes de se développer de façon harmonieuse aussi.
Alors là où ça va fâcher un peu tout ça, c'est que tout ce que vous êtes en train de dire, là, c'est bien beau, mais ça demande du temps.
Oui, tout à fait.
Alors, on sait très bien que les parents X, puis ce que c'est de qu'il s'agit, eh bien le temps, c'est une chose dont on ne dispose pas beaucoup. Comment on fait pour avoir une relation, comment dirais-je, vraiment dense, vraiment proche avec ses enfants, avec cette génération Y, quand on est soi-même pris par le temps?
Je pense que là, on est encore une fois sur le projet de vie et sur ses propres priorités. Oui. Quelles sont ses propres priorités dans la vie, et de voir un peu ce qu'on a envie de faire passer en priorité dans son projet. Si le temps, c'est quelque chose qui est difficile à économiser,
oui.
En même temps, il y a la qualité du moment. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir avec ses enfants des moments de qualité. Pas forcément énormément de moments, mais il en faut quand même un minimum.
Oui.
Mais des moments de qualité, où
oui.
on va pouvoir être soi-même dans une vraie qualité relationnelle et où on est suffisamment disponible pour cela.
Oui, ça veut dire plusieurs choses. J'entends plusieurs choses. Un, il faut le décider.
Oui.
Donc, éventuellement remettre en question sa vie professionnelle en se disant peut-être que je dans tel poste, je gagnerai un peu moins d'argent, mais j'aurai plus de temps pour les enfants. Donc, quelle est ma priorité? Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand je dis peu d'instants, mais de qualité, et que vous dites il y a un minimum, effectivement.
Oui. Oui, il y a un minimum. Et c'est vrai que je reçois aussi des personnes et des dames, notamment, qui se posent ce genre de questions et qui reviennent à ces priorités et qui sont prêtes à revenir à une rémunération moindre pour s'occuper et avoir plus de temps avec leurs enfants. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'évolution du monde et ces accélérations des changements, il y a tout un questionnement qui émerge et qui me semble être revenir justement sur des priorités importantes.
Ouais. Alors quand vous dites aussi de cette génération, tout ce que vous avez dit en première partie, je pense que c'est aussi des jeunes qui ont énormément de qualité. Comment pour les parents, comment dirais-je, exprimer ces qualités aux enfants, qu'on soit pas tout le temps dans le « Ah, tu fais tout trop vite », etc. « Tu fais tout par-dessous la jambe », »,« Tu es toujours en train de repousser ce que… », etc. etc. D'être dans le reproche. Peut-être que, comme tout un chacun, ils ont besoin de choses positives pour grandir.
Tout à fait, qu'on leur donne confiance. Donner confiance pour des enfants, ça va être de souligner ce qu'ils font bien à chaque fois qu'ils le font bien et de façon authentique, évidemment. Ça nourrit la confiance en soi.
Oui, il ne faut pas non plus verser dans le truc complètement artificiel, quoi.
Tout à fait. Ce qui marche, c'est justement quand ça reste authentique.
Et donc, repérer leurs talents aussi, peut-être ?
Repérer leurs talents, développer justement chez eux une réflexion sur ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et quelle est leur vocation.
Ça, c'est un point énorme, ça.
Oui, travailler sur leur projet de vie, c'est vraiment important. Projet professionnel, projet personnel, et le plus tôt possible. Hein, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à disposition des parents, même s'il faut chercher un petit peu quand même,
oui.
pour pouvoir développer ce projet-là. Et ça, c'est quand on sait pourquoi on fait les choses, on est évidemment plus motivé à l'école, par exemple.
Oui, ça c'est certain que ça aide à gérer la fameuse frustration dont nous parlions tout à l'heure, ou de supporter la contrainte de travailler parce que ça va nous mener à tel ou tel métier qui nous paraît avoir du sens.
Tout à fait.
Alors, tout ça, c'est bien, bien gentil. C'est on comprend que pour les parents, la tâche est ardue, qu'ils sont renvoyés à eux-mêmes, à vérifier leurs priorités, etc., etc. Et par-dessus le marché, je suppose qu'il doit y avoir un moyen de le faire. C'est-à-dire que peut-être ça se fait, on dit pas comme dans peut-être certaines générations passées, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement.
Non, c'est vrai que la qualité de la communication et de la pédagogie est importante et que ces jeunes-là poussent sans doute leurs parents au progrès.
Et alors, quel conseil, parce que vous savez, les parents, ils disent « oui, ben, c'est bien gentil, mais je fais comment, moi ?»
Ah ben c'est travailler soi-même son projet avec des professionnels, pourquoi pas, projet en tant qu'adulte pour pouvoir travailler ensuite le projet du jeune.
Alors là, vous parlez du projet, pour ce qui est de la façon de présenter les choses, comment on peut aider les parents là-dessus aussi, parce que vous savez...
Sur le conseil, l'écoute, le conseil, la pédagogie, développer la pédagogie, ça c'est vraiment un axe important pour les parents et pour les managers aussi.
Pour les managers, mais enfin là, c'est surtout des parents qui nous écoutent. C'est vrai que pour les managers, ça doit être un petit peu déroutant quand j'y pense, puisque quand j'entends les parents, ils sont un petit peu surpris parfois quand même. Et donc, ils nous appellent à énormément de choses, ces jeunes-là. Comment concluriez-vous notre émission sur cette génération Y ?
Eh bien que cette génération Y, c'est aussi notre avenir et que tout ce qu'on peut faire pour les aider à grandir, à se développer et à être heureux dans leur vie, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et je pense que ces jeunes ont des vraies valeurs et que c'est important de pouvoir discuter avec eux et de les écouter et pour pouvoir développer des relations de qualité et construire ensemble, puisque la friction parent-enfant peut être aussi une friction créative qui permet de faire avancer le monde.
Eh bien voilà, c'est sur cette belle conclusion. Construisons le monde avec la génération Y. Merci Valérie Poubelle d'être venue nous parler de cette génération et merci à vous tous de nous avoir écoutés.